Chaque jeudi, vous avez rendez-vous avec la semaine des rédactions. Le principe est simple, vous le connaissez. On fait le tour de l'actualité de la semaine avec les moments forts des différentes radios juives, partenaires et amis à Marseille, à Paris et donc à Jérusalem. Avec vous, Isabelle Piras à Marseille. On reviendra sur les commémorations des 10 ans des attentats de Toulouse et de Montauban avec notamment une interview du député israélien Yom Tov Kalfon.
Bonjour Rudy, bonjour à tous. Oui, le député Yom Tov Kalfon était présent à Marseille. Il a participé à une conférence sur l'accueil des réfugiés ukrainiens en Israël. Il est revenu à notre antenne sur les discours d'Emmanuel Macron prononcés à Toulouse lors des commémorations des attentats dimanche dernier.
Avec vous, Sandrine Seban, directrice de l'antenne de RCJ. Bonjour.
Bonjour Rudy, bonjour à tous.
On évoquera le documentaire sur la rafle des notables diffusé, c'était hier soir sur France 2. C'est l'adaptation du livre de votre invité Anne Sinclair.
Exactement, Anne Sinclair et le réalisateur Gabriel Lebeaumin étaient avec nous lundi pour en parler. Un documentaire remarquable avec à la fois évidemment beaucoup d'émotions et aussi une vraie perspective historique avec de grands historiens comme Denis Péchanski, Anna Dziorka qui ont participé. Je crois que vous étiez très nombreux hier soir à voir cette soirée spéciale sur France 2 et c'est bien évidemment en replay sur France Télévisions. Mais vous réécouterez Anne Sinclair, elle en parle beaucoup mieux que nous.
Voilà, et puis on ira pour terminer en Israël pour parler d'amour avec vous Emmanuel Haddad.
Eh oui, j'ai beaucoup hésité, j'aurais pu vous parler de sujets beaucoup plus difficiles, mais j'ai choisi d'apporter un petit peu d'amour et de lumière dans ce monde très obscur.
Ça ne nous fera pas de mal. On débute avec vous, donc Isabelle Piras. Nous avons suivi les cérémonies évidemment très émouvantes dimanche dernier, les cérémonies d'hommage à Myriam Monsonego, 8 ans, Gabriel Sandler, 3 ans, Arié Sandler, 6 ans, Jonathan Sandler, 30 ans, Abel Chenou, 26 ans, Mohamed Logouad, 24 ans et Imad Ibn Zaten, 30 ans. Et donc le député Kalfon, député de la Knesset, était à Marseille. Il est revenu sur ce que a dit à la tribune Emmanuel Macron.
Oui, car Yom Tov Kalfon fait partie donc, de la délégation qui a accompagné le président israélien à Toulouse. Il est revenu sur le discours prononcé par Emmanuel Macron. Alors, je vous propose qu'on écoute l'extrait, car selon lui, il y a une dizaine d'années en France, on n'aurait pas pu entendre ce discours.
Il y a des mots forts qui ont été prononcés, je crois, évidemment par le président de l'État d'Israël, mais aussi par le président de la République, Emmanuel Macron, qui a parlé donc de l'antisionisme et a dit clairement qu'en réalité, souvent l'antisémitisme se cache derrière le masque de l'antisionisme. Le mot islamisme aussi, islamiste, était très présent dans les discours. Chose que, alors moi j'ai quitté la France il y a 17 ans, 18 ans, mais je me souviens que même il y a 10 ans, c'était pas un mot qui était forcément politiquement correct. On parlait beaucoup du pas d'amalgame et on n'utilisait pas ce terme, on parlait d'extrémiste, on faisait parfois référence à l'antisémitisme ancien d'extrême droite. On essayait parfois d'oublier qu'il y a aujourd'hui en France, essentiellement, je crois, un antisémitisme qui vient donc c'est de cette haine d'Israël et qui est portée par cette idéologie islamiste qui tue partout dans le monde, qui tue des musulmans d'ailleurs en premier lieu, qui a tué d'abord des juifs en France, et on l'a vu après au Bataclan et à Charlie, qu'en réalité les juifs sont toujours la première cible, mais par la suite ça s'étend au reste de la population. Il y a aussi une critique qui a été émise à ce niveau-là, que quand il y a eu Toulouse, on n'a pas eu un réveil immédiat, je crois, de la population française. C'était un peu une histoire judéo-juive, où arrivaient les militaires aussi, mais c'était pas quelque chose qui a touché. On n'a pas eu de grandes manifestations, on n'a pas eu un... Il a fallu attendre, en réalité, Charlie, pour avoir les gens dans la rue. Et là aussi, je crois que c'est un message qui est important de comprendre que l'antisémitisme n'est pas l'affaire des Juifs, c'est l'affaire de la France entière, et que si on s'y prend pas dès le début, pour arrêter ce fléau, en fin de compte, le fléau, il va s'étendre à tout le monde.
C'est des mots qu'on a beaucoup entendus.
Oui, c'est des mots qui ont été effectivement, et là où le député a raison, c'est qu'il y a 10 ans, il y avait cette solitude extrême de la communauté juive de France, des Juifs de France, par rapport à ce qui s'était passé, et à cet attentat qui était au-delà, en fin de compte, du réel. Est-ce que le choc était tel que les réactions ont tardé, je ne sais pas. Ce que je sais, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les mots de dimanche, les mots du président de la République Emmanuel Macron et de différentes autres personnalités ont fait, je crois, beaucoup de bien, évidemment, et aux familles et aux Français juifs dans leur ensemble.
Alors, si je peux me permettre de réagir d'Israël, justement, à cette journée commémorative, tout d'abord, je voudrais juste ajouter que dans la délégation du président de l'État d'Israël, il y avait également le député Yossi Taïeb, qui est député francophone de la Knesset, qui accompagnait le président lors de cette visite. C'est important de le dire, il n'y avait pas que Yom Tov Kalfon. Et surtout, je voudrais saluer le travail des journalistes, parce que le RCJ et les autres radios juives, mais aussi d'autres journalistes français, ont fait justement ce travail d'information pendant des années pour expliquer que le terrorisme était bien islamiste et qu'il touchait toute la population. On le sait aujourd'hui, les Français le savent, et même si c'est toujours important de continuer à commémorer et à transmettre ce message, je pense que vous avez fait un travail remarquable à ce niveau-là d'information. Parler d'attentats, c'est toujours difficile, parce que comme vous le savez, en Israël, cette semaine, nous avons été profondément choqués par un attentat terrible à Beersheva. Et la France a condamné d'ailleurs cet attentat. Et je pense que ce n'est pas pour rien, parce que cette visite du président israélien en France, la condamnation immédiate de la France de l'attentat qui a eu lieu à Beersheva, je pense qu'il y a un rapport de cause à effet. Alors on peut peut-être parler d'ouverture, d'embellie des relations franco-israéliennes, je l'espère vraiment. C'est important pour nos deux pays et c'est important pour nos deux communautés.
En tout cas, ce qu'on a eu comme écho, hein, on voyait les présidents, il y a eu un dîner ensuite à l'Élysée. Enfin voilà, on a senti qu'effectivement il y a un vrai lien, de vrais moments forts dans cette journée entre les deux présidents.
Emmanuel, je vais apporter un petit bémol hein, quand même, parce que vous évoquiez cette attaque cette semaine en Israël, une attaque terroriste qui a été mise entre guillemets par les journaux Libération et Le Monde. Alors quand vous parlez du travail que la presse a fait justement pour dire les choses...
Non, je parlais des attentats de Toulouse, vous savez Rudy, que par rapport à Israël, vous savez bien qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, les journalistes français pensent que c'est, on va dire entre guillemets, légitime, que c'est de la résistance palestinienne, oui, les guillemets sont là pour ça. Ouais. Alors c'est vrai que sur ça, le travail n'est pas terminé. En tout cas, sur les attentats antisémites en France, oui, je pense qu'il y a un travail qui a été fait et il y a vraiment une prise de position des autorités et même du peuple français très, très forte.
Isabelle voilà. Pierras.
Le problème à la radio, et je laisse Isabelle après, c'est qu'on n'entend pas les guillemets. Donc, en fait, par contre, pour ceux qui ont écrit ces articles, nos confrères, entre guillemets, journalistes, entre guillemets, de Libération et du Monde, effectivement, moi, je les mets entre guillemets.
On va essayer de trouver un guillemet radio, mais effectivement. Isabelle, un petit mot pour conclure sur ce sujet ?
Alors c'est vrai que nous évoquons aussi avec Yom Tov Kalfon, c'est le message fort hein, qui a été passé par la présence des deux présidents, donc israéliens et français, à Toulouse. C'est vraiment, on peut parler peut-être d'une prise de conscience et c'est une lutte commune contre le terrorisme.
Voilà, je crois qu'effectivement, il y a consensus maintenant sur la question, sur cette question de la prise de conscience. On va parler avec vous, Sandrine Seban, de cet invité que vous aimez, que vous admirez. On le sait.
Oui,
et à
moi aussi, je l'aime beaucoup. Moi aussi,
mais
Sandrine.
Mais qui n'aime pas Anne Sinclair?
C'est notre maître à toutes.
Alors voilà, à l'origine d'un très beau documentaire qui a été diffusé cette semaine.
Effectivement, et Anne Sinclair nous racontait lundi, elle est venue avec le réalisateur du documentaire, Gabriel Le Baumin, à la fois à quel point évidemment ce documentaire était extrêmement important pour elle, c'est son histoire qu'elle raconte dans ce livre, La Rafle des Notables, et ensuite donc dans ce documentaire, et à quelle fois c'était aussi un petit peu compliqué pour elle au début en tout cas, parce qu'il était évident pour le réalisateur, et on le comprend, que c'était Anne Sinclair qui devait porter ce témoignage, cette enquête, avec à la fois, il y avait très très peu, c'est ce qu'elle explique, de documents, en fin de compte, sur sa rafle des notables. Ils sont partis de 4 images. Et vous qui réalisez des documentaires, Rudy, vous savez à quel point c'est compliqué.
C'est voilà. La matière première.
4 images et il fallait faire un documentaire. Donc, ils ont fait un vrai travail d'enquêteur, de journaliste. Et Dieu sait si elle sait y faire, Anne Sinclair, pour remonter comme ça la file. Et ce documentaire, vraiment, que je vous encourage à voir en replay si vous ne l'avez pas vu hier soir, eh bien, à la fois va donner de vrais points de rappel historique avec Denis Péchanski, avec Annette Viviorca, avec Karen Taïeb du Mémorial, et en même temps va rappeler à quel point cette rafle des notables, qui était une des premières rafles en France, a fait basculer aussi l'espoir que certains juifs de France avaient, que malheureusement trop avaient, sur le fait que, mais non, on les enlèverait pas, on les toucherait pas, on les raflerait pas, parce que ils étaient français, parce que de par leur profession, leur place dans la société. C'est tout ça qui a basculé aussi avec cette rafle des notables. Et je vous propose d'écouter Anne Sinclair en parler.
Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu à la fois, après la guerre, la volonté de revivre et une sorte de pudeur. Dans le film, on voit un extrait il y a un extrait qui est lu du journal de René Gompel, qui est un des survivants de cette rafle. Et la préface de ce journal a été faite par sa fille qui dit, il y avait une sorte de pudeur de mon père, d'en faire des tonnes, si j'ose dire, par rapport à ceux qui avaient connu l'enfer de l'enfer, c'est-à-dire les camps de la mort, et qui, à la fois, ou n'étaient pas revenus, ou même revenaient avec cette expérience. Et donc, je pense que ceux qui avaient vécu cette rafle, même si elle était violente, même si elle était dure, même s'ils en sont morts par la suite, même si ça a été l'internement dans un camp nazi à 70 km de Paris, ont eu une sorte de réserve. Et cette réserve m'a été transmise. Et au fond, je ne savais pas grand-chose de ce qui s'était passé. Et c'est grâce beaucoup à Karen Taïeb qui était la responsable de la documentation au mémorial de la Shoah, qui m'a retrouvé la trace de ce grand-père.
Voilà, Anne Sinclair qui était notre invitée donc lundi et qui raconte cette traque, entre guillemets, cette enquête incroyable qu'ils ont menée pour ce documentaire.
Alors, je trouve ça très, très émouvant, en fait, ce travail de mémoire que Anne Sinclair a effectué ces dernières années. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, qu'elle a plongé dans l'histoire de sa famille pour nous la transmettre, pour nous la raconter, parce que c'est vraiment une histoire exemplaire. J'ai été très émue quand elle a commencé à faire, à écrire ses livres et à faire ce travail de recherche sur sa famille. Et je trouve que c'est essentiel et vraiment, j'admire énormément. Vous le savez, Anne Sinclair, c'est une journaliste exceptionnelle, c'est une femme exceptionnelle et c'est vraiment un modèle pour nous tous.
C'est un modèle depuis des années et des années.
Absolument.
Et on a pu s'en rendre compte, nous encore, d'un peu plus près ces derniers mois, toute cette année, en fait, dans la maison FSU, puisqu'elle était la marraine de la campagne de la Tzedaka, une marraine absolument incroyable, présente, généreuse, très impliquée.
Sandrine, et vous... quand même, si ce n'est pas grâce à vous que... Anne Sinclair, que Michel Drucker se soient énormément rapprochés à la fois de la communauté juive et à la fois d'Israël, parce qu'ils sont venus tous les deux souvent en Israël et de plus en plus souvent. J'ai eu le plaisir d'animer une soirée avec Anne Sinclair à Tel Aviv, de l'interviewer devant un public, et elle s'est confiée à nous. Michel Drucker, pareil, j'ai l'impression, Sandrine, que vous y êtes pour quelque chose.
On ne dira rien, merci pour la modestie. Mais vous savez, je vais vous aider peut-être là, Emmanuel, à faire les liaisons. C'est peut-être parce que je les aime, et c'est peut-être...
Ah et c'est peut-être beau, c'est parce beau.
Que... Voilà, c'est beau, vous avez vu. Ah, c'est un métier, c'est un métier. Alors, allez, Rudy, je vous ai fait la transition, allez-y. C'est cadeau, cadeau.
Bah, donc, on va parler d'amour, évidemment, Emmanuel.
Alors voilà, j'aurais pu vous parler cette semaine du discours à la Knesset de monsieur, du président Zelensky, je ne le ferai pas. J'aurais pu vous parler également de l'arrivée des réfugiés ukrainiens, dont certaines que j'ai rencontrées hier. Je ne le ferai pas. J'avais envie aujourd'hui de vous apporter un peu de lumière en vous parlant d'amour avec une initiative absolument exceptionnelle d'un jeune homme de Tel Aviv qui s'appelle Itamar Tal, qui a trouvé un banc en plein cœur de Tel Aviv, à côté du marché de Nahalat de Benjamin, si vous connaissez, et il a demandé à la mairie qu'on lui octroie ce banc, qu'on lui permette d'utiliser ce banc. Il a décoré ce banc, il l'a habillé, il l'a peint, etc. Et ce banc, il l'a nommé, et ça s'appelle le Safsal Hashidurim, le banc des rencontres. Et il propose, parce qu'il est très doué pour mettre les gens en lien, il propose de s'asseoir sur ce banc une fois par semaine pendant plusieurs heures et que tous les célibataires de la ville viennent le rencontrer et lui demander ce qu'il cherche, quel type d'homme, quel type de femme, quel projet de vie ils ont, etc. Et il propose donc de faire des shidurim, des rencontres en vue de créer un couple, en vue de mariage. Et ça a marché. Après.
C'est vrai?
En l'espace de quelques mois, il a déjà eu 4 mariages réalisés.
Ragbe Israël!
Ragbe Israël, à tel point que d'autres villes du pays lui proposent la même chose. À Rishon LeZion, on lui a également octroyé un banc, le banc des Shidurim.
Mais il ne va pas pouvoir aller sur tous les bancs comme ça.
Il va y aller une fois par semaine dans chaque ville. Il est très heureux. La presse en a pas mal parlé parce que c'est une initiative toute simple qui ne coûte rien et qui apporte beaucoup de bonheur. Et je pense que c'est très important de nos jours.
C'est magnifique.
Alors à l'époque, à Tel Aviv, on se rencontrait dans les parcs pour chiens. Oui, c'était le premier lieu de rencontre.
Mon amour.
Voilà. On voit que Rudy est connaisseur de la question.
Oui, mais je n'avais pas de chien. Mais effectivement, c'était le lieu
privilégié. Le chien du voisin.
Voilà. Exactement. Et quand on n'a pas de chien, voilà.
Alors nous, on va sur un banc. Isabelle,
alors,
à Marseille.
À Marseille, on a le banc le plus long du monde. Hein. En plus, il donne, c'est sur la corniche. Hein. Il donne sur la Méditerranée. Donc, on va peut-être lancer une petite invitation. Il y a de quoi faire des rencontres.
Bah, allez-y,
hein. On a plusieurs kilomètres. Hein.
Voilà, on va essayer de en parler.
Et puis, il y a le stade Vélodrome pour se rencontrer aussi. Hein.
Oui, enfin, c'est un autre type de rencontre.
C'est pas la même chose.
Très bien, même chose.
Ça change de Tinder, en tout cas. C'est
oui, bah, c'est clair. Joli, merci Emmanuel.
Oui, merci Emmanuel pour cette bonne nouvelle. En tout cas, cette nouvelle un peu souriante pour conclure cette semaine des rédactions. On se retrouve la semaine prochaine pour faire ensemble le tour de nos antennes. Merci à toutes les trois. Et puis, on continue ce RCJ Midi avec vos chroniques et un point sur l'info dans un instant.